Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge et bienvenue dans notre bulle d'optimisme. On y découvre des femmes et des hommes qui ont l'audace d'entreprendre, qui ont des idées et qui font bouger les lignes. Et même quand c'est impossible, à La France bouge, c'est possible. Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous.
Et aujourd'hui, on part au supermarché. On va parler de notre panier de courses.
Oui, parmi ceux qui gagnent des parts de marché en France, il y a Lidl, le groupe en chaîne. Les succès, comment va-t-il gérer, tiens, la hausse des prix à venir? Comment gérer les stocks quand une partie du succès est basée sur la vente de produits bradés fabriqués en Chine? Que pense-t-il de la baguette vendue à 29 centimes d'euros chez Leclerc? Michel Biraud, directeur exécutif France de Lidl, est notre invité jusqu'à 14h.
Elle a une en effet réduire le gaspillage alimentaire dans les supermarchés grâce à Smartway, une start-up nantaise qui place de l'intelligence artificielle pour régler tout ça. On va en parler avec son fondateur d'ici quelques minutes.
On a aussi trouvé pour vous le tout dernier fabricant français de vitrines réfrigérées pour les supermarchés. Ce groupe s'appelle Bonnet Névé et ce sera notre saga du jour vers 13h30.
Des céréales saines et savoureuses, des granolas sucrés, salés, l'umae, c'est le pitch sélectionné avec la CCI pour les trophées européens de l'avenir. Le pitch, tiens, va-t-il convaincre le patron de Lidl? Réponse 13h45.
Tiens, je crois qu'on est mercredi, on est donc dans Demain un emploi. On a combien de postes aujourd'hui pour vous? 1000 postes à pourvoir. Où ça? Et ma réponse aux alentours de 13h50.
Allez, bienvenue dans La France bouge. Vous pouvez nous suivre en direct là sur europe1.fr. On a aussi des très jolies photos sur notre compte Instagram. Allez, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Allez, c'est souvent le moment de la journée où il y a le moins de monde dans les supermarchés, l'heure du déjeuner. Eh ben, c'est le moment. Allez, on va pousser notre caddie tous ensemble jusqu'à 14h avec notre invité.
Bonjour Michel Biraud.
Bonjour.
Vous êtes le directeur exécutif de Lidl France. Lidl, c'est 1578 magasins. Je crois que bientôt, il va en avoir 1580.
Hein, aujourd'hui, 1580, on en ouvre deux nouveaux.
Vous les ouvrez où?
Ah, je ne saurais pas vous dire. Quelque part en France.
Je
n'ai pas en tête.
Vous avez raison, Michel Biraud, parce que vous êtes présent partout en France. 46 000 salariés. Une croissance continue depuis 7 ans maintenant. 2020-2021 ont été des années historiques pour vous. Nous sommes en janvier 2022. Comment s'annonce cette année, Michel Biraud?
Alors, en termes de résultats, de chiffre d'affaires, je pense qu'elle sera tout aussi historique que 2020-2021. Par contre, elle va être, je ne sais pas si je peux employer le terme, mais je dirais rock'n'roll. En termes d'inflation et de d'achat. Mmh. Parce que, effectivement, les hausses qu'on est en train d'essuyer sont assez importantes. Mais voilà, sans alarmer non plus les consommateurs. Mais il va y avoir une inflation.
Ça va coûter plus cher.
Comment ?
Ça va coûter plus cher.
Ça va coûter plus cher. On a déjà quelques exemples sur les pâtes qui, depuis le mois d'août, ont pris entre 25 et 35% selon les paquets en prix de vente, plus en prix d'achat. Mais on essaye, c'est notre rôle de distributeur, de faire tampon et d'essayer de minimiser en tout cas la hausse. Quoi.
Alors justement, on va entrer dans le détail parce que les deux sujets sont liés, hein, les achats et le prix auquel nous on achète tous ces produits. Commençons peut-être par l'alimentaire, même si c'est pas obligatoirement là-dessus que ça va le plus augmenter chez vous. Mais concrètement, vous venez de nous dire, les pâtes, ça a déjà augmenté de 25 à 30%. Le reste, ça va augmenter de combien? Puisqu'il y a des négociations annuelles qui fixent les tarifs. Oui. Ça entrera en vigueur le 1er mars.
Elles ont lieu en ce moment, d'ailleurs.
Mais vous avez déjà une idée. Ça va augmenter de combien, ce qu'on met dans notre paquet pour se nourrir au quotidien?
Alors déjà, juste pour repréciser une chose, les négociations commerciales dont tout le monde parle ne concernent, ou concernent les marques nationales. Lidl, on fait 90% de marques propres, de marques de distributeurs, des marques qui nous appartiennent, donc par définition pas nationales.
Pour ceux qu'on comprenne bien, ça va de Bonne Maman à Andros en passant par
Coca, ça c'est les marques nationales.
Exactement,
et Milbona à Saint-Albi, ce sont les marques Lidl.
Donc vous n'êtes pas en négociation
Je suis en négociation sur 10% de mes produits.
Ce qui n'est pas énorme.
D'accord. Sur le reste, on discute tout au long de l'année, parce que on est dans un schéma plus pragmatique, avec plus de bon sens.
Mais on peut quand même dire que les négos annuels vont donner une idée globale,
oui,
du marché.
Oui, évidemment.
Soyons le plus concret possible, parce que c'est ça qui nous intéresse tous.
Moi, je table sur une inflation dans mes linéaires de 3 à 3,5%.
Ce qui est historique, vous n'avez jamais augmenté les prix comme ça.
Jamais. Alors, encore une fois, les pâtes, on parlait de 20, 25, même 30%, certains paquets de pâtes. Le global, la moyenne sera de 3%, je pense, 3,5%. Donc il y a des choses qui ne vont pas augmenter, il y a des choses qui vont augmenter très peu.
Vous pensez à
les plus fortes hausses aujourd'hui qu'on a, c'est les pâtes, c'est l'huile, c'est le café. Ça, c'est très, ça, c'est historique. Jamais on a subi de hausse de telle sorte sur des produits.
Et qu'est-ce qui ne bougera pas?
Après, il y a des produits dans les cosmétiques qui ne vont pas bouger. Il y a plein de rayons dans la conserve qui vont pas bouger. Mais au global, il faut quand même, parce que il y a deux types de hausses qu'on subit.
Tout augmente quand on regarde l'INSEE. C'est-à-dire que les produits frais ont fortement augmenté selon les chiffres officiels de l'INSEE déjà aujourd'hui.
Oui.
3% sur un an, 4% pour la viande, 5% pour le poisson frais. C'est des données qui sont, on s'en rend tous compte, hein. On fait tous nos courses aujourd'hui.
Fait.
Et quand vous rajoutez en plus le prix du carburant, alors là, vous n'êtes pas concerné par ça, vous, mais quand même.
Justement, j'allais dire, il y a deux types de hausse. Il y a la hausse des matières premières agricoles, et celle-ci, il faut, en tout cas, mes équipes ont cet objectif d'y faire extrêmement attention, parce qu'on veut quand même sauvegarder le monde agricole français. Tous les consommateurs veulent manger français, donc il faut que nous, distributeurs, on puisse le proposer du
mais
français.
Mais est-ce qu'on le sauvegarde quand un grand concurrent à vous, Michel-Édouard Leclerc, a fait un énorme coup? Il a annoncé que pendant au moins 4 mois, le prix de sa baguette serait à 29 centimes d'euros. Tout le monde le sait, une baguette, ça vaut plus d'un euro quand on va chez le boulanger au coin de la rue. Déjà, comment c'est possible de vendre à 29 centimes? Est-ce que vous vous alignez et est-ce que vous trouvez ça normal?
Alors déjà, il ne faut pas comparer une baguette vendue chez un boulanger à 1 euro et la baguette dont on parle, qui
dans
était depuis 10 ans à 35 centimes. Depuis 10 ans, elle était à 35 centimes chez tout le monde. Et donc, il baisse de 18%.
Elle est à combien chez vous?
Elle est à 35 centimes encore aujourd'hui, mais va bien évidemment baisser à 29.
Ah oui, vous allez vous aligner?
Mais c'est obligatoire. C'est un produit tellement symbolique, la baguette. Mais tous les concurrents, tous les distributeurs français vont s'aligner, c'est évident. Et c'est ça que je trouve dérangeant. Je trouve que c'est pas très très pertinent, pas très responsable de sa part d'attaquer un symbole comme celui-ci dans ce contexte actuel. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont tout fait, ont mis des choses en place, Egalim 2, d'accord,
la loi qui doit permettre de mieux payer un producteur. Mais comment un producteur
exactement
est payé quand vous pourriez dire à vos clients, c'est 35 centimes, tant pis, parce que nous, on veut payer nos producteurs.
Mais on est dans un marché concurrentiel tel qu'on ne peut pas, Lidl, mais même Carrefour, U ou les autres, ne peuvent pas être 6 centimes, 18% plus cher que Leclerc, qui est le numéro 1. Il est le leader.
Donc il vous met mal, Michel-Édouard Leclerc, là.
Comment ?
Il vous met mal.
Il nous met mal, oui, bien évidemment. En fait, ce qui me dérange, c'est que ça entraîne une spirale déflationniste dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde agricole va mal. Même si légalement, il peut le faire, et qu'on peut le faire, mais le signal qu'ils envoient...
On n'a pas le droit de vendre à perte en France. Est-ce qu'à 29 centimes d'euros, vous êtes rentable ?
Non, bien sûr que non, mais on ne vend pas à perte.
Donc c'est du prix coûtant.
C'est ça. Tout à fait, avec les 10% de marge obligatoire d'Egalim.
On a regardé avec Elisabeth le catalogue de Leclerc. Il y a d'autres produits, la côte de porc, par exemple, à un peu plus d'un euro.
1,69 le kilo de côte de porc première.
Mais
c'est le coût de production à la sortie d'une ferme. C'est pas possible. C'est le coût de production à la ferme. Donc après, il achète certainement des carcasses complètes qu'il va payer au prix du cadran qui est inférieur à ce 1,69. Donc légalement, c'est possible. Légalement. Mais l'image qu'on envoie au monde agricole, il est désastreux.
Mais vous enchaînez. Vous pourriez expliquer.
Non, alors le 1,69, je n'enchaîne pas. Je ne peux pas personnellement le faire parce que je passe par des industriels, des abatteurs et des transformateurs. Mais bien sûr que... Et c'est là tout le problème. C'est que ça entraîne une déflation. Et donc, quand mes acheteurs et ceux de mes concurrents ont vu le 0,29, la première réaction est laquelle? Ils appellent les fournisseurs, les 4-5 fournisseurs avec lesquels on travaille sur la baguette, et leur disent aux fournisseurs, mais vous vous rendez compte, Leclerc a baissé de 18%, vous me demandez une hausse de 25%. Donc c'est ça le problème. Donc forcément, c'est négatif pour tout le monde. Il n'y a rien de bien de faire ça, surtout dans ce contexte actuel. Donc je trouve ça pas très pertinent en tout cas.
On va continuer à parler de ce contexte actuel avec une inflation de 3 à 3,5% dans les rayons chez Lidl, oui. C'est ce que vous nous dites, Michel Biraud, mais aussi une baguette à 29 centimes parce que vous allez vous aligner sur ce que fait l'enseigne Leclerc. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On parle de notre panier de courses aujourd'hui. Si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, vous l'avez entendu. Michel-Édouard Leclerc va faire baisser le prix des baguettes quasiment partout en France, nous dit Michel Biraud, le directeur exécutif de Lidl France. Il avait annoncé la semaine dernière passer sa baguette à 29 centimes d'euros. Ce sera le cas aussi dans les jours à venir du côté de chez Lidl. Et on va continuer.
Michel Biraud, vous, ça va être 4 mois, 6 mois ou vous allez faire encore plus long que Michel-Édouard Leclerc?
Non, je joue pas. Il n'y a pas de course à l'échalote. je baisse parce que le leader du marché baisse.
Donc quand il remonte, quand il reviendra des prix normaux.
Si le leader du marché monte, dans la, okay. dans la seconde, je remonte, bien évidemment.
Et on va continuer à parler de tout ça.
Avec comment gérer les dates courtes des produits alimentaires. Parce qu'on sait qu'un hypermarché peut jeter des quantités astronomiques de produits. Ainsi, grâce à notre prochain invité, on peut le dire, la conscience du gaspillage alimentaire a évolué. Bonjour Paul-Adrien Ménez.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le cofondateur de Smartway, start-up nantaise. Vous, votre obsession, elle existe depuis une dizaine d'années. Votre obsession, Paul-Adrien, c'est de réduire le gaspillage alimentaire et ainsi vous proposez plusieurs solutions pour aider justement la grande distribution, notamment à réduire ce gaspillage. Alors il y en a plein, mais le point commun, c'est l'intelligence artificielle.
Oui, c'est ça. Effectivement, on a développé tout un tas de solutions depuis 10 ans à peu près pour réduire le gaspillage alimentaire et aider les distributeurs à le faire. Alors, ils ne nous ont pas attendus pour le faire. En revanche, il y avait quelques trous dans la raquette qu'on a comblés tout simplement, de la détection du produit jusqu'à sa revalorisation, en saupoudrant effectivement de l'intelligence artificielle à plusieurs niveaux pour aider aux prises de décision ou pour faire gagner du temps.
Alors, pour qu'on comprenne bien, ça marche comment ? C'est grâce à vous, encore plus que de d'habitude, tous les produits sont scannés et par exemple, grâce à votre solution, le patron du supermarché, il sait que dans tel rayon, il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il n'a pas fait gaffe, mais sa semoule, elle est bientôt en date limite de consommation et donc il faut trouver soit une offre promotionnelle ou autre.
C'est ça. En fait, au démarrage, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un magasin ouvre pour les consommateurs, tout est propre pour qu'ils aient une expérience qui soit la plus idéale possible quand ils font leurs courses. Et avant ça, c'est un peu la fourmilière, c'est un balai logistique incroyable à voir, où on va aller regarder tous les matins l'ensemble des produits du magasin pour vérifier s'ils ne sont pas en fin de vie, puisque la date limite de consommation n'est pas encodée dans les codes-barres des produits. Donc nous, on va leur offrir une première solution qui va leur permettre de détecter, en fait, dans l'allée numéro 28, gondole numéro 4, qu'il y a un produit qui possiblement arrive en fin de vie.
Mais comment il le sait ?
Via notre application.
Via l'appli ?
Ouais, via l'appli.
Et ça lui demande du travail au démarrage ? Il faut qu'il ait scanné un truc en plus ?
Première fois, effectivement, c'est un inventaire de date qui est réalisé une première fois au démarrage. Et puis ensuite, à chaque traitement d'alerte, on va remettre une alerte à la prochaine date, ce qui va permettre au quotidien de traiter que 3,5% des articles d'un rayon.
Alors, il va dans les rayons, il détecte le produit grâce à votre solution. Il en fait quoi de ce produit ?
Alors, on va le passer dans une première intelligence artificielle qui va détecter si le produit est donnable ou non donnable aux yeux de la loi pour une association caritative. Et donc, en fonction de ça, on va savoir si on peut l'aiguiller soit vers une remise promotionnelle, soit vers du don. Puis ensuite, on va détecter le meilleur pourcentage de remise pour pouvoir revendre le produit en fonction de la météo. Est-ce qu'on est le troisième jeudi du mois ? Est-ce qu'on est dans un magasin qui est en plein centre d'une grande ville ou près d'une école ou autre ? Et on va lui dire, par exemple, si tu as 10 yaourts à sauver aujourd'hui, on te propose d'en mettre 3 en don alimentaire et 7 à moins 35%.
Parce que si on est le troisième jeudi du mois, par exemple, on a moins de sous normalement sur son compte, donc on va aller vers la promotion.
Par exemple, en début de mois, on vient d'avoir sa paye, en fin de mois, c'est plus compliqué.
D'accord.
Et si jamais j'ai une association qui vient aujourd'hui, mais qu'elle vient avec une voiture, c'est pas la même chose que si elle vient avec un camion frais, donc je pas pouvoir donner non plus autant. On a des notions de marge qui rentrent en jeu, puisque quand on donne un produit, on a des crédits d'impôt, alors que quand on le vend, on fait du chiffre d'affaires. Donc il y a des notions comme ça qui sont un peu plus techniques, mais qui permettent au magasin de prendre les bonnes décisions tous les jours et de réduire de 80% son gaspillage, tout en augmentant de 50% son résultat net après impôt.
50% de résultat net, ça leur fait gagner combien ?
Ça leur fait gagner beaucoup. Sur un magasin, un Super U, Intermarché de quartier, on peut être sur du 200-300 000 euros par an.
Ah oui,
en fait, le magasin, il jette autant qu'il gagne tous les ans.
Combien de magasins aujourd'hui utilisent votre solution, parce que là, quand on vous entend, on se dit que ce serait idiot de ne pas en profiter.
Ouais,
il y a bien avoir un hic quelque part, mais en tout cas, quand on vous entend...
On a plusieurs centaines de magasins aujourd'hui en France, mais aussi à l'étranger. On est en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Roumanie, en Russie. On travaille avec différentes chaînes. Alors, les magasins ne nous ont pas attendus. Il y a une prise de conscience qui est de plus en plus forte aujourd'hui de la part des distributeurs sur le besoin de s'équiper.
Après, la loi les a un peu obligés aussi à avancer. Quoi. Ils ne nous ont pas attendus, mais la loi a été un petit peu obligée de les...
Les lois aident, effectivement. Mais ce qui est bien, c'est qu'en France, en fait, on a 3 à 4 ans d'avance sur le reste des pays.
Ah
parce que justement, au niveau politique et législatif, on a beaucoup avancé sur les sujets. On parlait tout à l'heure des fruits et légumes, il y a des sujets aussi là-dessus. Ce qui nous permet, du coup, d'avoir une suite applicative aujourd'hui qui répond aux problèmes de ceux qui sont les plus avancés et donc qui s'adaptent facilement dans un contexte européen.
Mais ça coûte
européen.
Cher, votre solution à un magasin ? Parce que vous dites que vous faites gagner de l'argent, mais vous n'êtes pas philanthrope, donc j'imagine qu'il faut bien vous payer un moment.
On est 80 chez Smartway, on n'est pas philanthrope. Et on ne se cache pas d'ailleurs derrière, on fait gagner de l'argent et on en prend une partie. En gros, quand un distributeur nous paye 1 euro, il récupère entre 3 et 20 euros.
D'accord.
Ce qui est pas mal.
Michel Biraud, je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Lidl France. Alors vous, le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose que vous avez quasiment institutionnalisé, notamment avec vos fameux paquets de produits frais, de fruits frais, de légumes frais. À 1 euro, les cagettes, ça, c'est devenu quasiment votre marque de fabrique. Il y a des queues le matin devant le magasin pour aller les chercher. C'est une des réponses
aux... Je pense que c'est une des réponses, on en parlait, mais je pense que ce que propose monsieur est très intéressant. Et
vous
et
l'utilisez?
On va peut-être... Non, alors j'avoue, je ne connaissais pas. On fait plein de choses pour le gaspillage alimentaire, mais je pense qu'on va devoir se rencontrer.
Ah, bah c'est fait pour ça, la France Bleue.
C'est nouer les points. Avec plaisir.
Mais pour le fruits et légumes, effectivement, aujourd'hui, c'est quand même... Faut le signaler, c'est 3 600 000 cagettes de 5 kilos chaque année qui sont vendues à l'ouverture des magasins. Donc c'est quoi? C'est un chef de magasin qui le soir, avant, il triait ses fruits et légumes, ce qui pour lui, à ses yeux, n'était plus vendable en tant que consommateur, bah, il les mettait à la poubelle. Ça fait 7 ans qu'on a mis ça en place. Il les met aujourd'hui, il constitue des cagettes de 5 kilos. Vous allez trouver des oranges, des tomates, des citrons, un peu de tout. Et c'est vendu le matin derrière les caisses. De ces 1 euro, donc 3,6 millions d'euros, on en reverse 50% au Resto du Cœur. Donc c'est chaque année un chèque de 1,8 million au Resto du Cœur. Donc on fait d'une pierre 3 coups.
Bah oui,
nous, on gagne de l'argent, enfin on en perd moins. On jette plus, on remplit plus les poubelles de fruits et légumes. D'ailleurs, on a retiré les poubelles de nos magasins. Il n'y a plus de benne à ordures dans nos magasins.
Là, vous jetez bien encore un petit peu quand même certains produits, non ?
Oui, mais les quelques produits qu'on jette, ils remontent sur les plateformes logistiques. Donc là aussi, c'est des économies. Et après, on a fait la même chose dans la viande volaille, par exemple. Avant, on jetait à 3 jours avant la date de péremption, on jetait la marchandise. Aujourd'hui, on laisse courir jusqu'au dernier jour. Et le dernier jour, une entrecôte qui normalement est vendue 7 euros la pièce de 300 grammes, elle est vendue 50 centimes. Donc là encore, on constitue des fonds pour pouvoir derrière aider une fondation ou le monde agricole.
Paul-Adrien Ménez, vous êtes le cofondateur de Smartway. Vous avez levé au printemps 10 millions d'euros, printemps dernier, auprès d'investisseurs. Vous en faites quoi? Vous développez comment maintenant? Vous allez à l'étranger?
Exactement. Le but est de se développer à l'international, puisque l'enjeu du gaspillage alimentaire dans le retail, c'est un problème qui est mondial. Et donc du coup, comme je le disais, on a pas mal d'années d'avance en France, ce qui nous permet d'arriver avec des solutions sur la table à proposer. Ouais, c'est clair.
C'est
vrai.
Vous êtes rentable en plus, il paraît. Dès 2014, vous étiez rentable.
Ouais, 2 ans après la création, ouais. Alors là, avec le fonds, on n'est plus rentable du tout.
Oui, c'est le moment d'accélérer.
Oui, c'est clair. Donc on recrute beaucoup et on se déploie beaucoup à l'international et ça marche plutôt pas mal.
Espagne, je crois, Belgique.
Espagne, on a Belgique, en Russie, en Roumanie. Il y a quelques pays dont je ne peux pas parler encore, mais qui avancent aussi. Et l'idée, c'est de faire rayonner nos solutions un peu partout, puisque les problèmes sont là. Les magasins jettent, ne veulent pas jeter. Les consommateurs, alors, on a fait une étude en France avec Opinionway qui montrait que plus de 9 Français sur 10 étaient prêts à aller dans un magasin qui avait une politique anti-gaspillage affichée versus quelqu'un d'autre. Et c'est là où je pense que les paniers qui peut faire Lidl, par exemple, sont très intéressants, puisque ça répond aux enjeux et à la prise de conscience des consommateurs en France. Et ça, c'est top.
Et ça, c'est top. Et nous, ça nous fait du bien d'entendre ce rayonnement français qui s'exporte. Et ça, on adore à La France Bouge. Vous êtes le cofondateur de Smartway, Paul-Adrien Ménez. Et merci d'être venu dans La France Bouge.
Et Michel Biro, le directeur exécutif de Lidl France. On vous garde, on vous kidnappe encore jusqu'à 14h avec nous dans La France Bouge.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Ah là là, on parle de nous, on parle de la grande distribution, on parle de la consommation, on parle de nos courses. On est tous amenés à faire ça et parfois à pousser la porte d'un Lidl. Aujourd'hui avec Michel Biro, directeur exécutif de Lidl en France. Un Lidl avec Aldi sont les marques qui gagnent le plus de pouvoir d'achat. Le plus de pouvoir d'achat et de part de marché en France. Voilà que mon cerveau est en train de s'embrouiller. Michel Biro, on va parler des autotests. Parce que toute la grande distribution a dit « on veut les vendre ».
Oui.
Ah ben vous les avez tellement vendus qu'il n'y en a plus. C'est aussi dur à trouver qu'un collier d'immunité de Koh-Lanta.
Alors, tout le monde a voulu en vendre. C'est surtout ceux qui en avaient en stock depuis un an qui voulaient les vendre. Et c'est pour ça
que
le gouvernement...
Qu'est-ce que vous voulez dire que Carrefour et tout ça, ils avaient déjà fait les stocks avant?
Ils en avaient acheté, je pense, il y a quelques mois en arrière, pensant pouvoir les vendre. Et le lobbying des pharmaciens a fait qu'on ne pouvait pas. Et donc, le gouvernement a décidé d'ouvrir à la vente aux distributeurs les autotests du début janvier jusqu'au 31 janvier. Donc, pour l'instant...
Mais pourquoi sur un mois? Parce que date de consommation...
Ouais, je pense que c'était pour liquider les stocks. Donc, moi, bien sûr... très pragmatique, on a rien commandé avant, enfin quand on n'a pas l'autorisation de vendre,
on commande
pas de produits.
Pour la grande distribution, Michel Biro.
Comment, pardon ?
Vous êtes un très bon élève.
Non, j'essaie juste d'être pragmatique et plein de bon sens. Donc nous, on commande quand on a le droit de vendre. Donc quand on nous a autorisé, j'ai appuyé sur le bouton, il faut compter environ entre 10 et 12 jours pour avoir les autotests qui viennent par avion de Chine. Donc 12 jours après, j'en ai vendu un demi-million et il n'y en a plus. Effectivement, c'est bien parti.
Et vous avez recommandé là,
j'ai recommandé... bien sûr des gros stocks qui vont par contre arriver vers le 25-26 janvier dans nos magasins.
Mais si ça on veut vous dire dit que d'arrêter de les vendre le 31, vous faites quoi après?
Eh ben je sais pas, j'en distribuerai aux salariés, je sais pas encore. Mais j'espère que le gouvernement
va prolonger
au minimal l'autorisation de la vente, peut-être pas de commande mais l'autorisation de vente.
Vous mettez le doigt sur ce qui est peut-être le plus dur, vous avez dit tout à l'heure une année rock'n'roll. On a parlé de la hausse des prix, mais une hausse des prix qui est générée parce que vous arrivez pas à faire venir vos produits, et notamment de Chine. Vous êtes connu parce que vous bradez la perceuse, le monsieur cuisine, enfin bon, plein de produits comme ça.
Je ne la brade pas, je la vends au juste prix.
Oui, mais bon, vous les faites venir de Chine, ça n'a jamais été aussi compliqué. Vous ne savez pas ce qui arrive d'une semaine à l'autre ?
Vous avez raison, on ne sait pas ce qui arrive d'une semaine à l'autre. Ça fait maintenant, je dirais, 8-10 mois que c'est extrêmement compliqué. Tous les conteneurs qui nous viennent de Chine, donc par les bateaux, arrivent essentiellement sur Rotterdam, une partie sur Barcelone, et c'est effectivement très compliqué. Si vous prenez une image satellite de Rotterdam aujourd'hui, il y a entre 40 et 60 porte-conteneurs énormes, où il y a, je crois, 60 ou 70 000 conteneurs dessus, qui sont au large de Rotterdam et en attente de déchargement dans les ports.
Ce qui est encore pire aux États-Unis, à Los Angeles, les bateaux restent 10 jours en mer, ce qui n'est jamais arrivé.
Exactement. Et donc, du coup, on a de la marchandise aujourd'hui qui devait être vendue, par exemple, la semaine prochaine, qui est actuellement dans ces conteneurs au large de Rotterdam. Et on ne sait pas s'ils vont arriver demain, la semaine prochaine ou dans 3 mois.
Ce qui pose problème, compte tenu aussi des saisons, si vous recevez par exemple, un ventilateur.
Alors, il y a 8 mois, quand ces problématiques ont commencé, c'était à l'instant T où c'était très compliqué parce qu'on n'avait plus de marchandises dans les magasins. Ça a duré très peu de temps. Aujourd'hui, on a des stocks, il n'y a pas de problème. Sauf que, et vous avez raison de le préciser, un ventilateur que j'avais commandé pour le vendre au mois de juin et qui arrive au mois d'octobre, eh ben, je ne vais plus le vendre. Donc, ces produits-là, très, très typés saison, je vais les mettre en stock dans des entrepôts. Donc, il va falloir payer un surcoût de stockage et je vais les remettre en vente l'année prochaine.
Et sur quel gros lancement vous travaillez là? Parce qu'on a parlé par exemple du robot de cuisine, un grand concurrent du Thermomix, le monsieur cuisine, qui a été un peu celui qui a le plus fait parler. Sur quoi travaillez-vous là?
Sur les baskets aussi, les enfin, carton.
Très sincèrement, on a des showrooms 3-4 fois par an où on va et on va faire nos courses. Donc il y a toujours des innovations, il y a des reprises. Hein. Le Monsieur Cuisine, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans qu'on le fait. Le hachoir, ça fait 10 ans. Les machines à coudre, ça fait 20 ans qu'on vend les machines à coudre.
Elisabeth, elle est passionnée là, par les verres qui gardent la température.
Oui, les verres à double paroi.
Quand on a préparé l'interview, donc, elle m'a dit « t'as vu ça, c'est super hein. !»
Donc tout ça c'est des produits qu'on va commander. Et parfois, ils ont un succès phénoménal, mais c'est aussi par le prix.
Mais c'est ça, mais comment réussissez-vous, Michel Biro, à avoir de tels prix?
Mais c'est très simple.
Parce que vous critiquez Leclerc sur la baguette, mais vous faites pareil sur ces produits-là.
Ah non, je ne mets pas à mal. Le monde agricole français. En tout cas, je ne lui envoie pas un signal en vendant un robot Monsieur Cuisine à 350 €, 4 fois moins cher que son concurrent. Je ne mets pas à mal le monde agricole français. En tout cas, je n'envoie pas un signe négatif. Comment on fait? On a 12 000 magasins aujourd'hui à travers le monde. Et donc, forcément, quand on commande une perceuse ou un robot Monsieur Cuisine ou encore des baskets, on commande pour 12 000 magasins à travers le monde. Donc, les quantités sont astronomiques. Des usines travaillent quasiment 24 heures sur 24 pour nos magasins. Et donc, forcément, on a un avantage sur le prix. Et en plus, on réduit nos marges parce qu'on a des approches logistiques parfaitement optimisées, maîtrisées. Et donc, oui, on vend avec moins de marge que n'importe quel autre concurrent. Et donc, tout ça mis bout à bout, on a des produits défiant toute concurrence.
Alors, chaque jour dans La France Bouge, Michel Biro, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un produit qui traverse les années, qui sont toujours là parce qu'ils sont français et qui font un peu notre fierté. Aujourd'hui, on va vous amener dans les rayons frais des supermarchés où l'on trouve le yaourt, le fromage ou encore le beurre. Eh bien, dans ces rayons se cache un fabricant français qui existe depuis la fin du 19e siècle.
Oui, ça s'appelle Bonnet Névé, il est le dernier fabricant français de vitrines réfrigérées en France. On part à Hendaye avec Charlotte Barrican.
Europe 1. La France bouge, la saga.
Les rayons des supermarchés sont des endroits pensés pour les consommateurs en quête de beurre, fromage ou encore yaourt. Et derrière ces frigos, il y a une belle entreprise française, c'est Bonnet Névé. C'est l'histoire de deux entreprises. D'un côté, Bonnet, créé en 1830. C'est un fabricant lyonnais de meubles de cuisine pour les professionnels. Et de l'autre, Satam Névé, créé en 1921 en région parisienne, une marque d'appareillage mécanique de réfrigération. Les deux entreprises fusionnent en 1987 pour devenir Bonnet Névé. privés et créent leur usine de production à Hendaye, dans le sud-ouest de la France. Christian Legousse, directeur commercial de Bonnet-Névé, Hepta France.
On peut vraiment dire que notre entreprise a accompagné le formidable effort du commerce alimentaire en France depuis les années 60, tant chez les indépendants, Leclerc, Intermarché, Système U, que chez les intégrés, Carrefour, Auchan, Casino, Cora et maintenant Lidl et Aldi. Pour l'ouverture du premier hypermarché Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois en 1963, c'était des meubles Bonnet et c'est aussi grâce aux meubles Bonnet et Névé que les deux enseignes Monoprix et Prise Unique, dans les années 50 et 60, ont étendu tout leur réseau de magasins de centre-ville. Et pour information, on trouve en ce moment une formidable exposition pour les 100 ans de Monoprix et Prise Unique au Musée des Arts Déco de Paris, qui s'appelle Design pour tous, exposition où naturellement on retrouve du mobilier Bonnet-Névé.
Bonnet-Névé est donc partout, vitrine pour les yaourts, présentoir à légumes, bac pour les produits congelés, meubles réfrigérés pour le poisson, la viande, à l'horizontale ou à la verticale, tout est possible puisque l'entreprise s'adapte aux nouvelles habitudes de consommation et aux contraintes énergétiques.
À l'origine, les vitrines réfrigérées quelque part faisaient du froid. Après, les produits ont évolué et on s'est assuré que les vitrines réfrigérées faisaient du froid à la bonne température. Les produits ont continué à évoluer et on s'est assuré que les mêmes produits faisaient toujours du froid mais en consommant moins d'énergie. Et il y a eu dernièrement une grande avancée là-dessus qui sont les portes hein, qui ont augmenté de l'ordre, diminué plutôt la consommation de l'ordre de 45%. Donc c'est vraiment, vraiment très sensible. Derrière, les produits ont continué à évoluer aussi pour des questions de merchandising. Comment avec un meuble réfrigéré vous pouvez offrir un confort d'achat au consommateur qui va l'aider à mieux acheter.
Bonnet-Névé équipe aussi les petites supérettes, les magasins de quartier, jusqu'aux meubles de click and collect. Et si l'entreprise tourne aussi bien, c'est grâce à ses 550 salariés.
Les rayons frais sont le poumon de l'activité en magasin, dans la distribution alimentaire. Et qu'une présentation soignée des produits sera la clé. Hein, aujourd'hui, la pression de plus en plus pesante sur le prix de l'énergie pousse aussi nos clients à rechercher du mobilier qui soit le moins énergivore possible dans la durée, sur lequel nous leur proposons, nous pensons, les produits les plus performants du marché. Alors, la prochaine fois que vous faites vos courses, s'il vous plaît, regardez la marque des vitrines réfrigérées, vous trouverez peut-être un Bonnet-Névé.
Depuis la fin du premier confinement, la production de Bonnet-Névé repart très fort. Les carnets de commandes sont pleins et pour accompagner leur forte croissance, l'entreprise recrute.
C'était la saga du jour racontée par Charlotte Barrican. On parle donc de la grande distribution aujourd'hui avec Michel Biraud, qui est le directeur exécutif de Lidl France. Elisabeth l'a esquissé tout à l'heure d'une ligne, elle nous a parlé des baskets Lidl. Mais on pourrait dire aussi les tatanes Lidl, on pourrait aussi parler des pulls Lidl à capuche. Vous êtes un groupe de mode tendance. Quand on regarde sur le Bon Coin, ça se vend des milliers d'euros. Et je n'exagère pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Sincèrement, je ne sais pas. Non, c'est. Je
vous
pense
y
qu'on
attendiez ?
Est. C'est vrai qu'il y a 10 ans, 10, 15 ans en arrière, on se cachait presque d'aller faire ses courses chez Lidl. Aujourd'hui,
c'est
devenu
presque
cool.
Tendance.
Ouais, je sais pas si tendance est le bon terme,
si.
Parce qu'une tendance en général c'est très éphémère, mais
ah non,
en tout cas
dure.
C'est devenu malin. C'est malin
là,
d'aller faire ses courses
sur une
chez Lidl.
Tendance. Là, on est plus que sur une tendance. Dès que vous mettez en vente vos baskets, elles sont en rupture de stock. Les gens se passent le message. C'est un élément de
mais
mode
moi, j'en
de la part
pas.
De certaines. Vous en vouliez pas.
Bah, j'y croyais pas du tout quand on nous a présenté dans ces showrooms où on va chaque année. On nous a présenté toute une collection Lidl. J'ai dit mais quel Français va se promener avec des baskets Lidl. Et en fait, c'est les Belges, nos collègues belges, qui les ont vendus en mai 2019. Et là, c'est un déferlement sur la France, des baskets à 1 300 € sur le Bon Coin, et des stars comme Djibril Cissé qui m'appelle,
qui vous a passé un coup de fil,
qui nous appelle, qui nous dit je veux les baskets, j'ai grandi avec Lidl, ma maman elle allait chez Lidl tout le temps avec mes frères et sœurs, et je veux les baskets. En plus c'est a priori un grand collectionneur de baskets, il voulait les baskets Lidl, et c'est là que je me suis dit. Il se passe quelque chose. Donc j'ai tout de suite appelé le fabricant. J'ai dit quand et combien je peux en avoir. Il m'a dit 150 000 au mois de novembre. Bon, je prends. Alors bon, il y a eu, on avait l'interdit.
C'est qui le fabricant ?
C'est une entreprise chinoise. On a un bureau d'achat d'environ 800 000 personnes.
Parce qu'en Chine, vous avez des usines à vous qui ne tournent que pour vous, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait, ouais. Et donc j'appelle, on me dit, je peux vous en livrer 150 000 pour novembre. Novembre, interdiction de vente due au Covid. Je les mets en vente fin décembre. Allez, en 10 minutes, plus une seule basket et 6 000 appels sur la hotline.
Et ça revient quand la prochaine collection, là ?
Donc après, on l'a mis en juin, et là, la prochaine doit... Ben là, il y a 10 jours, on a vendu, vous l'avez dit, Emmanuel, les pulls capuches, pareil, ça a été un gros succès. Et les baskets, les tongs, et, enfin bref, les claquettes chaussettes vont revenir dans quelques mois.
Claquettes chaussettes Lidl.
Les claquettes chaussettes Lidl.
Vous restez avec nous, Michel Biro, vous êtes le directeur exécutif de Lidl France. On va vous demander maintenant d'apporter votre expertise à une jeune entrepreneur qui se lance.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, on va continuer à aller faire les courses dans cette émission avec notre fait de l'avenir européen, la France bouge chaque jour, elle, où ils tentent de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil exigeant de notre témoin du jour. Aujourd'hui, Michel Biro, le directeur exécutif de Lidl France. Et puis, bien évidemment, notre fait à nous, Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie, qui va apporter à notre pitcho ses précieux conseils.
Aujourd'hui, une entreprise qui est née il y a 2 ans. Bonjour, Laurie Galarza.
Bonjour à vous.
Vous êtes la cofondatrice de Loumae. Loumae, ce sont des sortes des céréales. Hein. Vous dites qu'elles sont saines et savoureuses. Vous nous en avez apporté là dans le studio de La France Bouge. Alors il y en a cacao, noisettes grillées ou encore framboises, cranberry, noix de coco. Elles ont un très joli aspect. Elles sont bio. Vous avez 28 ans, Laurie. Vous avez voulu travailler sur les compositions des céréales pour les enfants. Alors c'est quoi Loumae? Ça veut dire quoi? C'est parti pour votre pitch. Vous allez nous raconter votre histoire. On y va.
Alors l'aventure Loumae, elle commence il y a quelques années, à la fin de mes études d'ingénieur agronome, où je prends conscience en fait de l'ampleur des aliments ultra transformés, du sucre, et en particulier au rayon du petit déjeuner. À ce moment-là, je me sens particulièrement concernée parce que des céréales, j'en ai consommé toute mon enfance et même après. Et c'est vrai que en devenant de plus en plus exigeante, finalement, je ne trouvais pas d'offre qui répondait à toutes mes attentes. D'avoir un produit qui soit à la fois sain pour ma santé, qui soit respectueux de l'environnement et surtout qui soit très bon. Et c'est là où j'en suis venue à créer mes propres recettes dans un premier temps. Et puis à lancer Loumae, donc en 2020, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, à Loumae, nous avons une gamme de 12 produits, des céréales croustillantes et des granolas super pépites qui sont fabriqués à la main dans notre atelier en Seine-et-Marne à partir d'ingrédients bio, issus de filières responsables et si possible locales. Tout est également sans sucre raffiné et aux céréales complètes pour vraiment avoir une offre saine et nutritive. Et pour autant, pas question de faire d'impasse sur la gourmandise. Donc pour cela, on a vraiment travaillé les recettes pour avoir des recettes qui soient originales, généreuses et très gourmandes.
Et là, nos auditeurs en voiture ou à la maison se disent déjà bravo pour ce pitch, mais ça va me goûter un bras ces céréales. Alors moi, je vais donner les prix.
Vous et l'argent.
Bah, c'est vrai, je suis... Alors 300 grammes le paquet, on m'a dit que ça valait entre 7,60 et 7,90. J'ai bon ?
Tout à fait, c'est ça. Ce qui rapportait à
c'est
la portion.
Gamme, hein.
On est à peu près à 1,30€ finalement. Et après, c'est toujours la question du bien manger finalement. Avec une portion et un petit déjeuner équilibré à côté, on n'a pas faim jusqu'à midi. Donc voilà.
On les mange avec quoi? Avec du lait? Avec du fromage blanc?
On peut les consommer avec du lait, avec du fromage blanc, un yaourt. Ça dépend vraiment des habitudes des consommateurs ou même nature.
Et pour ceux qui voudraient vous trouver, c'est en ligne et chez quelques revendeurs. Je crois que vous avez une 60aine de points de vente principalement bio.
Exactement.
Aujourd'hui en France, c'est ça?
Sur notre boutique en ligne loumae.fr et à travers nos revendeurs, donc principalement des magasins bio, des épiceries zéro déchet, des magasins de producteurs locaux.
Et ça va vous plaire, Emmanuel. Ils vont lancer des granolas façon frangipane.
Oh là là, c'est bon ça.
Ça, c'est pour vous. Qu'en pense notre fée à nous de la CCI, Nathalie Carré? Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Laurie, bonjour Emmanuel.
Coucou.
Bonjour.
Vous aimez les céréales, Nathalie?
Oui, alors mais ça fait longtemps que j'en mange plus. J'ai interdit mon fils effectivement d'en manger parce que.
Mais oui, il a raison. Il y a tellement de trucs pourris dedans.
Mais oui, exactement. Donc je vais y retourner.
Pas tant que ça. Moi, je suis étonnée des fois quand je regarde les céréales pour ma fille au supermarché. Ça, sur le Nutri-Score, c'est pas si mauvais que ça. Hein.
Ah.
Il y en a certaines
mais ça dépend
qui sont
lesquelles.
À peu près correctes. Hein.
Bon, en tout cas,
parce qu'elle est petite encore, elle mange ce que vous dites.
Oui, ouais. Bah oui, a priori, à 3 ans et demi, quand même.
Ouais,
on fait un petit effort,
ans.
Quand même.
Nathalie,
je
n'ai pas Loumae,
beaucoup d'autorité, mais quand même.
Loumae, vous avez analysé le projet de Laurie Galarza. Quelles sont les forces et les faiblesses, selon vous?
Bah effectivement, c'est un vrai sujet de santé publique. On en mange trop et c'est vraiment une invasion massive de sucre. Donc il y a un vrai besoin. Le slogan « Mangeons vrai » que vous avez, ça, c'est bien parce que ça, en fait, ça ouvre vers beaucoup d'autres produits que les céréales. Puis vous avez des photos qui donnent vraiment envie de goûter.
Ouais. Franchement, là, je suis avec
vraiment,
les cacao noisettes grillées. Oh, ça a l'air hyper bon.
Ça, ouais, ça donne vraiment envie de tester. Et puis en plus, c'est sympa parce que vous avez créé des recettes qui changent du sempiternel flocon d'avoine parce qu'on n'est pas des ânes.
Vous voulez faire attention à vous, mangez de l'avoine.
Mangez de l'avoine, c'est ça.
C'est vrai.
Ça suffit maintenant. Et donc, effectivement, bravo pour vos recettes originales comme le granola frangipane.
Merci.
Alors, sur quelques points ou quelques suggestions, pensez au contenu informatif pour faciliter le référencement naturel et puis éclairer les internautes parce qu'en fait, on est un peu déboussolés quand même, on ne sait pas quoi choisir. Comparez vos céréales avec celles qu'on connaît tous, faites parler nutritionnistes, décryptez les petits déjeuners types pour valoriser vos atouts, ajoutez des informations Nutri-Score, valorisez vos partenaires chez qui vous achetez les matières premières, montrez la fabrication de vos recettes, donnez des idées de recettes, bref, apportez les preuves des bienfaits de vos céréales, mais surtout de leur goût. Et puis, bah, comme souvent, vous n'êtes quand même pas la seule à proposer ce type de céréales.
Il faut se différencier.
Ah, Elisabeth, bravo. Donc, à un moment donné, vous dites que vous êtes persuadée qu'il est possible de faire vivre l'économie locale en privilégiant la proximité, circuit court, etc. Alors, peut-être que vous pouvez vous appuyer sur cet angle, dans le cadre de votre développement, évidemment, et proposer des petites unités de production régionales, avec des recettes régionales, des matières premières régionales, et donc une distribution régionale. Voilà, petite unité de production, emploi régional, un impact carbone limité avec les circuits courts et une appropriation régionale de la marque. Et là, ben, toutes vos valeurs sont valorisées et vous êtes vraiment différent des autres.
Alors, c'est toujours passionnant ce que nous dit Nathalie Carré. Que pouvez-vous lui répondre, Laurie ?
C'est très, très, très intéressant. C'est vrai que, alors, à une moindre échelle, on avait déjà réfléchi à faire, par exemple, des recettes en valorisant des régions et en mettant à l'honneur, justement, des produits d'une certaine région en fonction des périodes. Mais pourquoi pas des ateliers, plusieurs petits ateliers, pour justement être complètement dans notre démarche. Et ce qu'on fait sur Paris, finalement, le dupliquer dans d'autres régions.
Et vous devriez le préciser, moi, je trouve. Là, je regarde la composition de ceux que j'ai en main, c'est-à-dire cacao, noisette grillée. Non, mais c'est le premier, mais je les aime bien. Vous voyez, vous mettez du sucre de fleur de coco. Oui. C'est vachement intéressant, ça, il faut le dire. Parce que quand vous dites que c'est avec du sucre, sans sucre raffiné, on ne sait pas ce que ça veut dire finalement.
C'est ça, on a choisi le sucre de fleur de coco puisque c'est un sucre qui a un faible index glycémique et qui du coup est beaucoup plus intéressant d'un point de vue nutritionnel pour les consommateurs.
Michel Biraud, directeur exécutif de Lidl France. Alors, qu'est-ce que vous en pensez avec votre œil d'expert?
Alors moi, je trouve toutes ces initiatives formidables. Je rejoins pas mal la dame de la CCI qui a donné quelques conseils. Je pense qu'il faut mettre en avant toutes les belles choses qu'il y a dans ce projet sur le PAC et notamment effectivement le côté local, le côté aide au monde agricole aussi. C'est très important. Après. Alors moi, je veux bien qu'on discute après l'émission pour voir.
Pourquoi pas.
Maintenant, on peut faire quelque chose. On a l'avantage d'avoir 1600 magasins. On peut faire des tests, même des petits tests.
Parce que le derrière, bien, ça marche le volume. Chez vous, parce qu'on a beaucoup parlé.
Après, j'avoue,
pas cher depuis le début.
J'avoue que c'est haut de gamme. On est à 25 euros du kilo à peu près, si j'ai bien calculé. Il y a quand même beaucoup de Français qui sont à 1 euro près à la fin du mois.
Sûr.
Voilà, c'est on se limite à une frange de la population qui est quand même
bon,
très très
très. Ce sera plus chez Naturalia alors. On n'est plus chez les magasins bio effectivement.
Donc, mais ceci étant, faut jamais dire jamais.
Il faut goûter. Exactement. Parce que la qualité a un prix. Ça s'appelle Loumaé. Merci à vous Laurie Galarza d'être venue dans La France Bouge et donnez-nous de vos nouvelles de votre
merci
projet.
Merci à vous pour votre accueil.
Et Nathalie Carré, on vous retrouve dès demain si vous voulez présenter votre entreprise, c'est simple. Une seule adresse mail, lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1, La France Bouge.
Allez, suite et fin de votre émission, nous sommes toujours avec Michel Biraud, directeur exécutif de Lidl France.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Ça passe trop vite, c'est déjà la dernière partie de votre émission. On parle aujourd'hui grande distribution avec Michel Biraud, directeur exécutif de Lidl France.
Et dans La France Bouge, on vous aide à trouver un emploi et à trouver les bons candidats pour les entreprises. Aujourd'hui, 1000 postes à pourvoir. Bonjour Valérie Leroux.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes la DRH d'OGF. OGF, c'est un opérateur de pompes funèbres. Le siège est à Paris, 6000 salariés. Et vous, si vous êtes en direct dans La France Bouge, c'est parce que vous proposez aussi des CDI. Des CDI pour quel profil ?
Alors merci, oui effectivement, OGF, c'est dont la marque la plus connue est PFG, Pompes Funèbres Générales, est effectivement le premier opérateur français du monde funéraire et nous recrutons 1000 emplois en CDI en France.
Mais comment c'est possible, Elisabeth le disait, vous avez 6000 salariés, vous en avez besoin de 1000 en plus ?
Alors, on en a besoin de 1000 en plus, tout simplement parce que nous avons beaucoup de métiers différents. Il faut savoir que pour organiser des obsèques, nous avons plus d'une dizaine de métiers que vous ne voyez pas et qui sont effectivement requis. Mmh. Alors, si je peux insister
un petit
peu... Bien
sûr, du coup,
vous
cherchez quel profil ? Pardonnez-moi de demander ainsi, mais c'est quel profil ?
Alors, nos trois principaux métiers. On a le métier de conseiller funéraire qui...
Donc lui, il accueille les familles et il leur propose les types de cercueils.
Alors, pas simplement.
L'accueil,
naturellement, L'accueil, l'accompagnement des familles dans l'organisation des obsèques, sachant que notre force, c'est la personnalisation des obsèques avec un très fort niveau d'exigence et de qualité. Juste un taux 96%. Hein, 96%, ce sont les familles qui nous ont fait confiance et qui nous recommandent. Le deuxième métier qui est recherché chez nous, c'est le métier de maçon marbrier, où effectivement, c'est un métier qui est en charge d'assurer les travaux de terrassement et les poses de monuments. Ils font un travail remarquable chez nous. Et puis, nos porteurs-chauffeurs qui prennent en charge les dessins au moment des décès jusqu'à la cérémonie, et ce, avec beaucoup de tact.
Bien sûr, évidemment.
Les postes sont à pourvoir, j'imagine, partout en France ?
Alors, maillage extraordinaire, on a plus de 1100 agences en France, 600 maisons funéraires, donc effectivement, partout en France.
Donc vous recherchez des profils très variés, vous nous avez dit qu'il y avait même une formation en interne, une école de formation chez vous ?
Alors, oui, exactement, vous êtes très bien renseignés. On a une école de formation parce que nos collaborateurs viennent d'horizons extrêmement différents, mais ils ont tous des points communs. Ils ont tous un très grand sens du détail, un très grand sens du service et puis beaucoup d'empathie.
D'empathie, évidemment. Merci à vous Valérie Leroux. Je rappelle que vous êtes la DRH d'OGF. 1000 postes à pourvoir.
Michel Biraud, vous aussi beaucoup de postes à pourvoir chez Lidl?
Bah écoutez, sur 2022, on va proposer 3000 CDI.
Pour donc là, il y a juste 4000 offres d'emploi qui viennent d'arriver comme ça dans l'escarcelle d'Europe.
3000, ouais, au bas mot 3000, parce qu'il faut accompagner notre croissance qui est très forte. On le disait en début d'émission, depuis 7 ans, on a une croissance continue. Donc il faut continuer, on va ouvrir beaucoup.
Comment on postule où ?
Lidl France.
Lidl.fr, Lidl.fr. Emploi, et vous pouvez, c'est dans toute la France, bien évidemment. Hein, c'est des métiers qui va employer polyvalent en magasin,
et
préparateur
à peu près
de commandes.
Complet sans une coupure de 14 heures entre les deux chiffres.
On propose. Non.
Voilà. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux chez Lidl. Merci à vous, en tout cas, Michel Biraud. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Lidl France. Merci d'avoir été avec nous dans
Merci
la France Bouge, nous, Emmanuel. On se retrouve demain dans l'Est de la France.
Oui, effectivement. Demain, on part à Strasbourg, localisation de la France Bouge sur les entreprises qui travaillent entre la France et l'Allemagne. On va vous faire découvrir de super profils en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie.
À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.